RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans De quoi je me mêle, vous le savez, votre rendez-vous de la tech du week-end, à la fois sur RMC le dimanche matin, mais aussi en podcast audio sur l'appli RMC dès le vendredi soir et en vidéo sur 01 TV, la chaîne sur les box, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01net.tv.com. Je suis très heureux de vous retrouver avec un gros morceau 5G encore une fois, puisque vous le savez, ça y est, les opérateurs français lancent la 5G, après SFR, après Bouygues, c'est Orange qui a allumé quelques-uns de ses émetteurs. On en parlera avec le directeur de l'innovation d'Orange qui sera mon invité tout à l'heure, Michael Trabia. Puis je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez réagir, le hashtag DQJMM sur Twitter et puis la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. Et pour cette première partie de quoi je me mêle, bien sûr, c'est le club de la presse IT avec cette semaine Emmanuel Paquette qui est là. Bonjour Emmanuel.
Bonjour François.
Journaliste à l'Express. Et on est ravis de retrouver Gonzague d'Ambricourt. Salut Gonzague.
Ça va.
Gonzague, vous le savez, blogueur, passionné de nouvelles technologies, entrepreneur et qui vient aussi régulièrement dans quoi je me mêle pour commenter l'actu. En plus, cette semaine, il est venu avec un petit casque pratique pour télétravailler dans de bonnes conditions. Si vous êtes tout comme nous, tout le temps dans des réunions Teams, Zoom ou je sais pas quoi, eh bien vous allez voir, là ça marche. Parce que parfois, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. Avec ça, en tout cas pour le son, on peut régler les problèmes. On en parle dans quelques instants. Mais pour débuter l'actu de cette semaine, c'est Apple qui collectionne en ce moment les problèmes juridiques et notamment qui est poursuivi encore une fois en justice en Europe.
Oui, alors cette fois, c'est effectivement une association de consommateurs européens qui demande 180 millions d'euros à Apple. Alors c'est sur une vieille histoire. L'histoire, c'est le battery gate, hein, ce qu'on appelle d'Apple. Donc c'est sur les modèles S6, 7 et SE de certains iPhones. Quand il y avait eu une mise à jour iOS, ça ralentissait effectivement le téléphone pour pas trop tirer sur la batterie. Et à l'époque, Apple n'avait pas averti les consommateurs que la mise à jour pouvait avoir un effet sur la batterie. Et du coup, derrière, le fait d'avoir caché cet incident fait qu'il y a des demandes un peu partout. Alors, ils ont dû payer les consommateurs américains. Il y a une nouvelle procédure même qui a été ouverte il y a quelques jours aux États-Unis. Et puis, dans différents pays européens, il y a eu des procédures en Italie, en France, d'accord, en Angleterre. Et puis là, maintenant, c'est au niveau européen où on réclame 180 millions d'euros donc à la firme de Cupertino.
Bon, alors, 180 millions, c'est quoi? C'est peut-être une heure de bénéfice d'Apple, non? Enfin, je sais pas, j'exagère peut-être un peu.
Pas loin, je pense. Ouais,
mais c'est vrai que bon, ils ont déjà trinqué en Italie, ils ont été condamnés, je crois, à quelques dizaines de millions d'euros pour le même problème.
Même problème.
Hein. Ouais. C'est étonnant parce que on pointe du doigt Apple sur un problème, j'allais presque dire d'obsolescence, mais finalement, c'est pas les plus mauvais en termes d'obsolescence.
D'ailleurs, Apple avec d'ailleurs, les iPhones. En fait, tu vois, ce qui est compliqué, c'est que ça part à chaque fois. Ce qu'ils font, ça part souvent d'une bonne intention, et ils se sont fait aussi remarquer récemment parce que leurs ordinateurs, les Mac. Contacte les serveurs d'Apple à chaque fois que tu lances une app, etc. Ça a été assez controversé en termes de vie privée. Et là, le but du jeu, c'était de préserver effectivement ta batterie et l'autonomie de ton téléphone, certes en le ralentissant un petit peu, mais ça se partait d'une bonne intention. Et maintenant, dans l'OS, tu peux aller vérifier l'état de ta batterie et ils ont lancé un programme de changement de batterie qui était pas cher. Donc, ils essayent de corriger ce genre de choses, mais ils se font tomber dessus à chaque fois.
Enfin, cela dit, là où ils ont peut-être fauté, c'est qu'ils auraient peut-être dû informer les gens cette mise à jour en disant, écoutez, on a remarqué des problèmes de batterie, on fait une mise à jour qui va peut-être faire baisser un peu les performances de votre téléphone, mais c'est pour votre bien. Enfin, je veux dire, Apple sait communiquer la plupart du temps.
Et on vous laisse le choix, c'est aussi ça qui est assez important.
Exactement.
Quand t'es utilisateur et que c'est ton matériel, si on le change sans que t'aies la possibilité d'influer dessus, c'est pas très sympa. Bon, maintenant, on peut.
Voilà. En plus, ça a eu un effet un peu pervers, c'est que d'un coup, on s'est dit, Apple nous cache des choses, c'est bizarre.
C'est Apple. À nous aussi, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, en effet. Mais c'est vrai qu'on pouvait se dire, ils essaient de réduire les performances des téléphones sans nous avertir, en quelque sorte. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de changer des millions de batteries aussi, parce que c'est vrai qu'en communiquant ouvertement le problème, il y aurait peut-être des gens qui auraient dit, écoutez, changez la batterie, hein, mon téléphone a peut-être 2 ans, 1 an. Voilà, c'est ça aussi.
En fait, c'est ça, effectivement, ce que tu disais sur le côté obsolescence, c'est que des gens, du coup, ont changé de téléphone alors qu'ils auraient pu simplement changer de batterie. Et comme ils n'en avaient pas été informés, du coup, on a considéré que c'est une stratégie cachée d'Apple pour justement relancer les ventes des nouveaux terminaux qui arrivaient sur le marché. Donc, effectivement, le fait de cacher des choses, le manque de transparence, ouvre quasiment à toutes les interprétations complotistes ou toutes les théories possibles. Donc je pense qu'une société a mieux fait quand même de communiquer ouvertement et dans la transparence plutôt que d'être pris à revers comme on le voit aujourd'hui.
Exactement. D'ailleurs, suite à cette histoire-là, il y avait eu tout un programme de remplacement de batteries hein, d'iPhone à des prix défiant toute concurrence.
Mmh, c'était etc. très intéressant.
Voilà. Mais Apple avait été obligé de le faire parce qu'il y avait pas mal de class action aux États-Unis notamment.
Exactement.
L'actualité bouillante qui est tombée hier, eh bien, elle vient des US, Emmanuel, et c'est le service HBO Max qui envoie un signal et un séisme dans le monde du cinéma qui est quand même assez impressionnant.
Oui, c'est pas une très bonne nouvelle hein, pour les chaînes de salles de cinéma, hein, les multiplex ou même les indépendants, puisqu'effectivement HBO appartient à Warner. Warner aujourd'hui, bah, c'est des grands films qui sont attendus pour l'année 2021, donc il y a Dune. Pour ceux qui adorent Frank Herbert, hein. On attend aussi Wonder Woman 1984 qui va arriver. Donc il y a des grands films comme ça qui vont arriver directement sur la plateforme de vidéo à la demande, en même temps que dans les salles de cinéma. Alors, aux États-Unis, hein, pour l'instant, il y avait ce qu'on appelle un fenêtrage, c'est-à-dire qu'on sortait les films en salle, et trois mois plus tard, ça arrivait sur les plateformes. Là, ils cassent ce qu'on appelle la chronologie des médias aux États-Unis. Donc c'est pas très bonne augure pour les salles qui souffrent déjà énormément aux États-Unis, et ça ne concerne pas pour l'instant l'Europe, mais ça pourrait arriver dans un deuxième temps dans certains pays européens qui n'ont pas de chronologie des médias. Le pays le plus à cheval là-dessus, c'est la France. On a une chronologie quand même très stricte. Donc on va voir si à un moment ou à un autre, le phénomène Warner va commencer à s'étendre en dehors des frontières.
Parce que c'est vrai que c'est douloureux cette histoire, mais peut-être moins aux US, parce que comme tu le disais, les fenêtres sont beaucoup plus courtes.
Ouais. Hein,
et alors qu'en France, par exemple, un Wonder Woman est obligé de sortir en VOD, je crois 3 ou 4 mois après sa sortie au cinéma. Donc ce sont des délais qui sont quand même plus longs.
Et en SVOD, c'est 3 ans. Hein.
Et en SVOD, alors sur les plateformes comme Netflix, etc., ou même la plateforme d'HBO, si elle arrive en France,
ce sera
3 ans.
Ouais.
Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des salles de cinéma?
Pour l'instant, Gonzague. De toute façon, c'est vrai que si tu écoutes les gens autour de toi, ils n'ont pas forcément envie d'aller s'entasser dans des salles de cinéma, alors que c'est le meilleur moment, puisque tu es forcément espacé, etc.
Oui,
donc tu
ne
seras pas collé par quelqu'un qui mange du pop-corn. Non, blague à part, c'est vrai que c'est déjà une période qui est extrêmement difficile pour les cinémas et ça ne va pas les aider. Mais ce mouvement de films qui ne sont disponibles maintenant que sur des plateformes commence à exister, parce que si tu penses à Netflix, eux, ils développent leur propre contenu, des séries, des choses qu'on n'aurait jamais vues au cinéma et qui ne vont pas créer d'audience dans les cinémas, et des films qui sont pas forcément mauvais d'ailleurs. Ça, c'est...
ça dépend.
Oui, d'où le pas forcément mauvais. C'est des choses qu'on n'aurait jamais vues dans un cinéma de façon traditionnelle, et puis on va en rester encore confiné quelques temps.
Ouais.
Pas complètement con comme démarche. Hein.
Disney, HBO, quel va être le prochain là, Emmanuel?
C'est une bonne question. Alors, il y a eu NBC hein, qui avait... Universal, pardon, excusez-moi, qui avait fait Box Troll 2. Ou les Trolls 2, pardon, pas Box
qui
Trolls,
était sorti en plein confinement,
c'est ça,
et qui avait exclusivement sur Apple TV, sur, il fallait payer, je crois.
Oui, c'est ça, il y avait un premium à payer, et ça avait été un très très bon succès commercial pour Universal, donc il y a eu ce précédent-là, c'était même le premier, à vrai dire.
Alors, les Trolls, c'est pas un excellent, c'est pas un grand film
Troll
aussi,
2.
Hein, des Trolls 2.
Il y a eu Mulan aussi.
Oui, alors il y a eu Mulan chez Disney, et il y a Soul, qui devait sortir, donc le prochain Pixar, qui devait sortir en salle.
Et qui sort directement sur la plateforme Disney, et dans le monde entier.
Et dans le monde entier, y compris la France.
Et regarde, Apple TV, ils avaient racheté un film de Tom Hanks
tout
et ils l'ont diffusé uniquement sur cette plateforme, je crois. Et au début, il avait gueulé contre Apple, puis finalement, il a dit « Merci beaucoup !»
Ah oui, parce que ça a été un des gros titres de la plateforme Apple TV, plus qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Hein. Donc effectivement, c'était un très bon coup. Ouais.
Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que bon, touchons du bois, espérons qu'en 2021, on sorte de toute cette mouise, de tout ce marasme, et qu'on puisse ressortir, qu'on puisse retourner au cinéma. Est-ce que ça reviendra comme avant, ou est-ce que finalement cette crise, cette épidémie aura profondément changé les choses en matière de distribution et de projection de films?
Je pense que ça va définitivement changer, modifier les choses, parce que c'est une fois qu'on a cassé la chronologie, pour y revenir, c'est compliqué. Ce qui m'étonne, c'est que les salles de cinéma américaines ne montent pas plus au créneau.
Ouais. Faut dire qu'elles sont moribondes.
Elles sont tenues grâce à des prêts effectivement bancaires. Elles sont tenues à la gorge. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en plus la loi avait été modifiée pour permettre maintenant aux majors, hein, donc du cinéma, de racheter des salles de cinéma, ce qui était interdit jusqu'à maintenant. Et au moment où la loi est modifiée, le coronavirus arrive et il n'y a plus aucun intérêt pour les salles de cinéma pour les majors d'acheter des salles. Donc effectivement, et je pense que la grande résistance, ça sera en Europe, hein, et notamment la France.
quand vous voyez que ce James Bond qui devait sortir en avril dernier a été repoussé en novembre et qui là maintenant est reprogrammé un an après sa sortie, vous vous rendez compte? Ça s'est jamais vu.
Non.
C'est dingue.
Il faut savoir qu'il y a quand même une pression parce que c'est du cash qui a été avancé par les studios généralement et normalement ils doivent rembourser ce cash à des banques. Donc plus ils retardent la sortie,
plus ça
leur
coûte. Intérêts,
ils payent des intérêts, un peu comme vous quand vous... quand on retarde un paiement d'une échéance. Donc ça leur coûte extrêmement cher. C'est pour ça que de temps en temps, ils veulent essayer d'envoyer quelques titres directement à SVOD pour essayer de retrouver un peu d'argent.
Mais James Bond, qui est une machine à cash pour... alors c'est plus Sony Pictures maintenant.
Sony est toujours distributeur.
C'est toujours...
Mais c'est la MGM, toujours.
C'est la MGM. Voilà, je pense qu'ils se sont posé la question parce que je crois qu'Apple, à un moment précis, voulait racheter, en fait, carrément James Bond et le dernier James Bond pour diffuser sur Apple TV.
Mais au moins, on pourrait le voir. C'est pas mal, parce que c'est frustrant, tu sais, tu vois les bandes annonces, tu vois les machins, et puis...
Mais c'est dingue, et puis vous vous rendez compte, là, pour éviter le piratage, il y a des copies de James Bond qui traînent, ça doit être terrible, quand on sait que, évidemment, il y a plein de...
Alors les studios demandaient, a priori, 600 millions, pour donner le James Bond, donc...
600 millions... Parce
pour
que ils projettent de gagner au moins 600 millions en le sortant en salle,
je pense,
en fait, c'est ça. Bon... On verra bien tout ça, comment ça va se tramer en 2021. On enchaîne avec la 5G. Tout à l'heure, je recevrai le directeur de l'innovation d'Orange qui viendra nous présenter en fait l'arrivée de la 5G en France. Mais Orange n'est pas le premier. SFR a tiré le premier à Nice il y a quelques jours de cela. Et il y a Bouygues Télécom aussi.
Oui.
Et Bouygues qui, à peine la 5G lancée, casse les prix.
Oui, alors casse les prix sur un forfait sans engagement.
Ouais, mais enfin... Mais on ouvre la faille.
On ouvre, exactement. Donc, c'est un forfait BNU avec 130 gigas, donc c'est quand même pas mal, pour 24,99. Alors, c'est limité dans le temps jusqu'au 16 décembre. Donc, il faut regarder, c'est en tout petit, j'ai vu. Donc, bon, ils ouvrent un peu la porte, mais pas trop non plus.
Oui. Ils testent le marché aussi pour voir.
Ouais, puis ils attendent Free, en fait. Je pense qu'ils se laissent tous le moyen de,
c'est dingue, ça.
De s'adapter à Free au cas où Free vienne tout péter. Donc, enfin, je pense que, voilà, tout le monde tente. Mais ce qui est marrant du côté de Bouygues, c'est qu'effectivement, eux sont les plus agressifs. Alors, tu pourras poser la question à Michael Trimbia tout à l'heure, mais Orange, par exemple, ne propose pas de 5G sur Sosh, par exemple, qui est leur offre entrée de gamme. C'est que du haut de gamme aujourd'hui, plutôt haut de gamme, sur des forfaits important, justement pour réengager les gens avec des téléphones 5G à la période de Noël, qui est une période extrêmement importante pour les opérateurs.
Voilà, donc on le voit, même si ça arrive sur des forfaits low cost, on sent que les opérateurs veulent pousser la 5G.
Et alors moi, ce que j'avais compris, mais peut-être mal, chez BNU, c'est qu'il y avait une option à 3€ qui permettait de l'ajouter à peu près n'importe quel forfait.
Pas tous, mais certains, effectivement. Ouais.
Et sur un autre forfait qui n'est pas BNU, qui a 20 gigas, 20 par mois, mais c'est vrai que c'est agressif. Bon, maintenant, il faut un terminal compatible, donc ça, c'est encore la majorité du parc.
Il commence à en avoir plus de 20, une trentaine quasiment.
Qui sont disponibles, mais dans les mains des gens, c'est une autre.
Ouais, on va voir. Et Free, on a des rumeurs ou quoi?
J'ai posé la question, je vous dirai pas ce qu'on m'a répondu.
Pourquoi?
En gros, Emmanuel, on sait que toi, t'as
ton rond de serviette, mais bon, le rond de serviette en ce moment, c'est un peu compliqué. Où est-ce qu'on en est, Free?
J'ai posé la question à Xavier Niel, qui m'a répondu, je ne vais pas donner cette information à un salarié de l'actionnaire dont l'actionnaire est SFR. Voilà. Parce que l'Express est détenu à 49%.
Donc il croit pas à notre neutralité journalistique.
Voilà, exactement. Bon, voilà.
Ouais. Bon, d'accord.
C'était énorme, c'était un clin d'œil. Je pense qu'ils voulaient surtout pas, ils veulent pas déflorer les éléments. Voilà, ils veulent, au moment où ils vont le lancer, je pense qu'ils vont communiquer auprès de leurs abonnés, mais pas auprès des journalistes.
On verra bien. On enchaîne avec TikTok, Emmanuel. TikTok qui teste des vidéos un petit peu plus longues, voire plus longues quand même.
Beaucoup plus longues. Ouais.
Puisque là, on passerait à 3 minutes.
Voilà, alors c'est un test pour l'instant. Je pense que ça pourrait te plaire.
Alors, je ne suis pas sur TikTok, mais...
Non, mais justement, alors le but, c'est que pour les blogueurs, pour avoir un peu plus de temps, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est 60 secondes, là, on passe à 3 minutes. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, des gens qui peuvent faire des tests, 3 minutes, alors il faut aller vite quand même. Mais
un test très rapide.
C'est un test très rapide. Ou des tutos par exemple, plus le faire sur TikTok. L'idée, c'est je pense de permettre de faire émerger un peu plus de modèles économiques autour de la plateforme, parce que là 60 secondes c'est un peu rapide. Paradoxalement, c'est ce qui fait aussi le succès de TikTok, c'est qu'on puisse switcher assez vite,
mais c'est
toi le spécialiste.
C'est ça qui fait que les gens consomment du contenu dans des proportions qui sont dingues, et je pense qu'ils sont un peu mis à mal par Instagram qui a lancé les Reels, qui avait déjà évidemment les vidéos où il y avait beaucoup moins de limites de temps, et puis on parle de YouTube aussi derrière, qui est quand même aussi un concurrent intéressant, et YouTube qui devient de plus en plus insupportable parce qu'il y a maintenant tellement de publicité.
Mais c'est dingue.
Et que comme à chaque fois que tu te connectes, il te pousse de t'abonner à YouTube. YouTube Premium. Je crois qu'il y a un vrai malaise face à ça. Et TikTok, c'est assez marrant. Je connais des gens qui n'auraient jamais été sur ce genre de canaux pour publier et qui aujourd'hui ont 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. Tu te dis, incroyable.
Mais quel type, c'est quel type de...
Voilà,
de...
c'est un mec qui parle de la mode, qui est blogueur mode à l'étranger, donc il parle pas français, mais qui a 1 million d'abonnés sur TikTok. Tu te dis, mais comment ?
Ouais, c'est dingue.
Et qui était devenu un peu has-been et qui s'est complètement repris de...
Oui.
Repris pied.
Ça permet aussi de recréer des personnalités, en tout cas, ou des postures sur un nouveau réseau social.
D'ailleurs, en parlant de has-been, on a certains de nos politiques qui essayent de se mettre sur TikTok.
Avec plus ou moins de
succès. Je crois que c'est pas
avec
succès,
plus ou moins de succès, d'ailleurs.
Hein. Tu vas y aller ou...
Non, en fait, moi, mon travail, c'est pas de produire du contenu. Mon boulot, c'est vraiment plutôt de faire de l'informatique pour les entreprises. Donc, j'ai grand plaisir à être sur Twitter où il y a un échange, d'ailleurs, qui est quand même particulièrement prolifique, et à faire des vidéos sur YouTube. Mais tout ça, ça prend du temps. Et ajouter un canal de plus, c'est encore du temps.
Ouais. Mais juste, j'aimerais qu'on revienne deux secondes sur cette flambée de la pub sur YouTube. Je sais pas si tu l'as remarqué aussi, Emmanuel, mais on se retrouve avec des programmes saucissonnés. Alors, des 30, 40, 50, une minute de pub avant de pouvoir regarder notre vidéo. Et c'est bizarre parce que je fais le parallèle avec l'arrêt bientôt de Google Photos, en tout cas l'arrêt gratuit de Google Photos. Est-ce que Google, on le voit, devient de moins en moins généreux parce que ça leur coûte tellement d'argent qu'ils veulent peut-être arrêter l'hémorragie ?
Je ne suis pas certain que ça leur coûte vraiment d'argent. En revanche, ce qui est sûr, c'est que YouTube, en termes de chiffre d'affaires par rapport à Google, le moteur de recherche, c'est peanuts. Donc en fait, la croissance en termes de chiffre d'affaires publicitaire, elle est aujourd'hui plus sur YouTube que sur Google, où en plus, aujourd'hui, Google est quand même sous l'œil de toutes les autorités de régulation de la planète. Hein. Donc, en revanche, YouTube, il y a encore quand même pas mal de choses à faire, notamment basculer sur du premium dont tu parlais. Hein. Mmh. C'est vrai que passer sur YouTube Premium, on reçoit tous des sollicitations à chaque fois qu'on se connecte quasiment. Mm-hmm. Hein.
Et ça marche. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont passés à YouTube Premium, qui sont prêts à payer 10 euros pour ne plus avoir de pub et pour écouter la musique, parce que finalement, ça remplace aussi un Spotify. Mmh. Hein,
si tu y passes du temps, ça les
voilà,
vaut.
Ça a du sens.
Déjà, parce que c'est pas complètement nul de rémunérer les créateurs qui peuvent bosser sur la plateforme. Et d'ailleurs, en parlant de rémunération, maintenant, ils vont aussi rendre obligatoire la monétisation des chaînes. Tu ne pourras plus avoir une chaîne pas monétisée, ce qui était quand même pratique.
Oui, on voit qu'ils essaient de racler les fonds de tiroir.
Ouais.
Quoi.
Ouais, et si on parle côté business pour Google, parce qu'on peut effectivement réfléchir à tous les endroits où ils commencent à grappiller de l'argent, avant, dans ce qui s'appelle G Suite, qui maintenant s'appelle Google Workspace, qui est en gros d'avoir la messagerie et les outils collaboratifs hébergés par Google, avant, ils avaient une offre assez accessible en illimité en stockage. Maintenant, c'est marqué 2 Tera.
Oui,
par utilisateur. Avant, il n'y avait pas de limite. Ouais, donc partout, là, ils sont en train de dire « Oh là là, zut, ça abuse. »
Et oui, le cas le plus flagrant, hein, c'est Google Photos, hein, qui a arrêté l'illimité en termes de stockage de photos, qui était quand même une...
C'était une belle offre.
C'était une belle offre, voilà. On enchaîne avec un gros chèque que Salesforce a fait pour racheter Slack, ouais. Emmanuel.
Oui, 27 milliards de dollars. Alors, c'est une des plus grosses acquisitions de ces dernières années. La précédente, c'était, pour ceux qui connaissent, je pense que Gonzague le connaît, c'était Red Hat qui avait été racheté par IBM pour 35 milliards de dollars. Là, on est vraiment dans du Linux, enfin, on n'est pas vraiment dans du grand public. Là, Slack, effectivement, c'est la messagerie plutôt entreprise d'outils collaboratifs, mais que les gens peuvent utiliser notamment sur smartphone, qui manquait un peu à Salesforce, qui avait son propre système qui s'appelait Chatter, qui a été créé en 2010, mais qui en fait n'a jamais vraiment conquis les entreprises. Donc l'idée, c'est avec Slack, c'est de pouvoir fournir cette brique en plus, et surtout d'essayer d'aller gratter Zoom, qui a explosé pendant cette année, hein, et puis Microsoft Teams. D'ailleurs, Slack avait attaqué en justice, avait saisi la Commission européenne contre Microsoft, en disant, vous donnez Microsoft Teams gratuitement dans le package Office 365 avec Outlook. Donc en fait, c'était quelque chose de gratuit. Ouais, alors que Slack en vit. Donc ils disaient, en fait, ils veulent notre peau. Donc paradoxalement, eux, ils vont être intégrés probablement gratuitement dans Salesforce. Donc ils vont répliquer la même stratégie que Microsoft. Je pense qu'on les entendra peut-être un peu moins se plaindre au niveau de la Commission européenne. Mais en tout cas, bon, voilà, on voit que l'idée, c'est d'attaquer le marché entreprise et du télétravail qui, aujourd'hui, va probablement perdurer au-delà de la pandémie.
Mais c'est vrai que Slack, on en a beaucoup moins entendu parler pendant le confinement que Teams, que Zoom.
Ouais. Alors, en fait, on en entend moins parler parce que c'est aussi déjà très installé dans beaucoup d'entreprises. Donc, ce n'était pas vraiment l'effet de nouveauté. Et après, Teams avait l'avantage de mélanger beaucoup de fonctions de chat, de partage de documents, de visio. Et je pense que sur ça, ils ont carrément tiré leur épingle du jeu, alors qu'il y a beaucoup d'imperfections.
Et l'intégration intégration avec Outlook et Office 365 oui. Que beaucoup de salariés possèdent de par leur entreprise. En
et
fait.
Moi, j'ai besoin de ton aide, Emmanuel, d'explication pour comprendre pourquoi 27 milliards de dollars, c'est incroyable comme somme, alors que c'est une entreprise qui n'a pas un chiffre d'affaires faramineux.
Non, qui fait des pertes.
Qui fait des pertes de quasiment trois quarts de son chiffre d'affaires chaque année. Et tu te dis, mais comment on valorise aussi cher? Est-ce qu'il y a une bulle de malade?
Je pense que de ce qu'on comprend, en tout cas, c'est que Salesforce, la croissance était en train de se tasser un petit peu, alors que Slack avait quand même, malgré tout, une croissance supérieure à celle de Salesforce, et même s'ils faisaient encore des pertes. Donc l'idée, c'est on achète de la croissance avec Slack.
On sort sur la croissance
de Slack. Donc on n'achète pas le Slack d'aujourd'hui, on achète le Slack de dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc c'est un pari.
C'est coûteux comme pari.
C'est coûteux, et d'ailleurs, comme tu dis, visiblement, t'es pas le seul à pas trop y croire, puisque le titre Salesforce a baissé en bourse à la suite de cette annonce. Donc ça veut dire que les marchés y croient moyennement, surtout avec cette valorisation de 27 milliards qui est juste monstrueuse, parce que Slack avant coûtait 17 milliards en bourse.
Alors, juste pendant que vous parliez, je regardais un petit peu sur Google parce que j'étais curieux de savoir combien il y avait d'utilisateurs de Slack. Il y a 12 millions d'utilisateurs actifs par jour.
Oui.
Ça, c'était en 2019. Donc, on peut imaginer quand même que voilà, ça, c'est ça qui a, à mon avis, valorisé en fait cette boîte. C'est que pour Slack, d'un coup, ça permet
de... 27 milliards, ça fait cher l'utilisateur quand même.
Surtout qu'il y a quand même beaucoup de gratuits.
Oui, et la plupart, j'imagine, sont des utilisateurs gratuits. En effet, on enchaîne avec Huawei qui continue de s'enliser en Europe.
Oui, effectivement, là, c'est l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, qui a demandé aux opérateurs de ne plus installer d'antennes Huawei à partir du mois de septembre prochain. Donc, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu dans les autres pays, enfin, en tout cas, européens. Donc, c'est une pression supplémentaire parce que le Royaume-Uni estimait que, en gros, les opérateurs britanniques avaient mis de côté des antennes, là, en ce moment, et allaient continuer à les déployer dans les années à venir. Donc, l'idée, c'était, vous n'allez pas nous la faire à l'envers. On arrête dès maintenant. Si vous avez des stocks, eh bien, vous les placez maintenant, mais à partir de septembre, c'est fini, plus de commandes.
Ouais. Et en France, on en est où alors? Parce qu'on sait que des opérateurs comme Bouygues et SFR demandent de l'argent à l'État pour démonter en fait tout ce matériel c'est Huawei. Ça. Alors, ils ont plusieurs années pour le faire.
Ils ont jusqu'en 2028.
2028. Ouais, on en est où? Ça avance là ou pas?
Alors, il y a eu une saisine du Conseil d'État qui a considéré que les demandes d'SFR et de Bouygues étaient légitimes et a transmis la question au Conseil constitutionnel.
D'accord.
Donc, le Conseil constitutionnel va donner son avis d'ici au plus tard au mois de février. Et s'ils disent que les opérateurs sont dans leur bon droit, ça peut vouloir dire que la loi anti-Huawei va devoir être potentiellement réécrite et surtout mettre en place une indemnisation. Alors, moi, j'ai eu le montant de l'indemnisation demandé, en tout cas par Bouygues et SFR, c'est 2 milliards. Donc, un peu plus d'un milliard pour SFR, un peu moins pour Bouygues Télécom, sur les 8 années de remplacement des antennes, avec les coûts que ça peut induire, puisqu'il y a les coûts éventuellement pour les consommateurs. Au moment où vous changez toute une région, il peut y avoir des problèmes sur la 4G, sur la 3G.
Bien sûr.
Donc, tout ça, ils l'ont mis aussi là-dessus, plus les retards pris par rapport à Free et Orange, qui, eux, n'ont pas de Huawei. En tout cas, très peu pour Free en France, donc ils n'ont pas grand-chose à désinstaller, voire rien du tout.
Bon, ce qui est bien avec Emmanuel, c'est qu'on lui pose n'importe quelle question sur l'économie et les télécoms, il y répond.
Très bien, viens plus souvent.
C'est formidable.
Non, mais c'est vrai qu'on est dans un moment pivot avec la 5G et c'est hyper compliqué pour les opérateurs. T'imagines, t'as pensé ton système pour marcher avec une marque, parce qu'en vrai, ils ont tous leurs spécificités. Et là, tu dois démonter, reconfigurer, organiser éventuellement la cohabitation des systèmes.
Racheter très, très du matériel.
Ouais, racheter dans une période qui sera du coup peut-être pénurique.
Ouais.
Et où les autres constructeurs pourraient dire hey « Hé !»
Il n'y en a plus que deux, donc effectivement, voilà. Ils peuvent être tentés de monter les prix.
On va monter les prix.
Ouais.
C'est très intéressant. On va terminer avec un petit test d'un petit produit. Gonzague, t'es venu avec ce petit micro-casque. Alors pourquoi en parler? Parce que
c'est un peu télé-shopping, mais...
on l'évoquait tout à l'heure. T'es pas mal en télé-shopping.
Alors voilà, aussi. Découvrez aujourd'hui. Non, on m'a prêté ce casque Logitech qui s'appelle Zone Wired. Ça se trouve aux alentours de 120 euros. C'est un casque USB-C, USB-A. Donc t'as un petit adaptateur au bout qui en fait est compatible avec toutes les solutions de visio, bien sûr, est-ce qu'il est reconnu nativement sur PC, Mac et même sur l'iPad. Et tu as un petit bouton ici qui va permettre de le mettre en mute. Il se met en mute tout seul quand on fait ça. Super son. Et aujourd'hui, quand je vois nos clients, justement, des entreprises avec énormément de salariés en télétravail, je me dis qu'est-ce que c'est pertinent quand même d'être bien équipé quand tu bosses à la maison. Sinon, on entend tes enfants.
Des fois, on n'entend rien.
Ta femme et ton mari, où on n'entend rien. Exactement. Et justement, j'ai un collègue au bureau qui utilisait un casque Bose. Pour faire un call, on entendait absolument tout ce qui se disait autour de lui dans la pièce.
Horrible.
Donc ça, c'est un peu dommage. C'est lui, il entendait personne d'autre, parce que c'est bien isolé. Mais il n'était pas bien entendu. Et il y a une pénurie sur ce genre de produit. Aujourd'hui, tu essayes d'acheter une webcam. Bon courage. parce que ça s'est vendu comme des petits pains. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion d'essayer ça et je continue de m'en servir parce que ça marche aussi très bien pour la musique. C'est vrai que c'est un autre intérêt, c'est j'ai un casque plus classique Jabra, très haute qualité pour faire des appels au bureau. Alors, dès que tu veux écouter du son, c'est l'horreur. Genre, vraiment, c'est fait pour la voix. Et ça, c'est pas dégueu pour ces filaires.
Alors, ouais, l'avantage du filaire, c'est qu'il n'y a pas de la latence du Bluetooth.
Il n'y a pas la
et
latence.
Pour ceux qui sont de l'autre côté, c'est plutôt pratique.
Et tu n'as jamais de problème de batterie. Ouais. Alors, et le casque que j'ai au bureau, un Jabra, lui, il est DECT. Donc, c'est.
Ah oui.
C'est, pour le coup, tu as vraiment très, très peu de latence. Ouais, mais ça, c'est un produit qui coûte vraiment cher. Je crois que ça coûte 200 ou 300 balles. Et c'est pas du tout le même public. On est vraiment là pour les gens. C'est call center. Et c'est extraordinaire dans ce niveau de qualité, mais pas pour le reste. Et lui, il a l'avantage d'être assez versatile, autant pour faire des calls, des appels normaux, que de profiter du multimédia. Et autant dire que quand on passe ses journées à faire des calls, on a aussi envie de défaire autre chose.
Exactement. C'est le Logitech Zone Wired. Mm-hmm. C'est ça. Merci beaucoup, Gonzac,
pour
ce petit test. C'est vrai qu'en ce moment, avec le télétravail, il vaut mieux être bien équipé. Hein. Mm. Un bon ordi, une bonne connexion, un bon casque, un bon micro. Emmanuel, merci beaucoup.
Merci François.
Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express et à Gonzac d'Ambricourt, donc vous l'avez compris, blogueur, passionné de nouvelles technologies et entrepreneur aussi. Hein. Mm. Rappelons que voilà, bouche cousue vous attend si vous avez envie.
Je retiens bien le nom, bravo.
De refaire votre réseau dans votre entreprise. Vous verrez, vous serez choyé, comme on dit. Alors, cette première partie de quoi je me mêle est terminée. On revient dans un instant et on va reparler de 5G encore une fois avec bien le bouton qui a été appuyé par Orange depuis quelques heures. La 5G émet chez Orange dans certaines villes. On en parle avec mon invité Michael Trabia. À tout de suite, vous restez là.
De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV. RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mêle.
Alors, de quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles technologies, vous le savez, des télécoms aussi, bien sûr, depuis quelques heures. Quelques abonnés Orange ont le petit logo 5G sur leur nouveau téléphone. Alors, pas partout, pas tout le temps, mais voilà, on est au début d'une nouvelle ère des télécoms avec l'arrivée de cette 5G. La 5G, on va en parler maintenant, on va prendre le temps de décrypter tout ça, à quoi ça sert, quels sont les avantages de passer à la 5G sans langue de bois. Avec mon invité, je suis très heureux d'accueillir Michael Trabia. Bonjour Michael.
Bonjour François.
Vous êtes directeur de l'innovation et des technologies chez Orange. Alors, avant d'entrer dans les détails, expliquez-moi votre job. Qu'est-ce que vous faites chez Orange?
Alors, beaucoup de choses, puisque les technologies et l'innovation chez Orange, ça couvre en fait toute la partie amont. On a recherche, la standardisation. On a des équipes qui ont travaillé sur le standard de la 5G, notamment, et qui sont d'ailleurs à l'origine de certaines avancées très importantes, notamment les avancées en matière énergétique, d'efficacité énergétique. Et puis, on a des équipes qui font du développement, donc tous les produits et services d'Orange, des équipes qui font de l'innovation, et puis des équipes réseau. Le leadership technologique d'Orange, en France et dans le monde, eh bien, il est porté par nos équipes.
D'accord. Donc, en fait, tous les services de demain qu'on ne connaît pas, certains, vous les connaissez. Et vous avez quelques longueurs d'avance sur nous concernant les télécoms de demain, c'est ça?
Oui, concernant les télécoms et le monde numérique, d'ailleurs, au sens plus large, puisque on regarde, on fait du scouting, comme on dit, et puis on a des chercheurs, on dépose plus de 200 brevets par an. On a un portefeuille de 8000 brevets, donc on est non seulement en train de regarder ce qui se passe, mais on agit. Et puis, on influence aussi sur cet écosystème. Et c'est très important, puisqu'aujourd'hui, on voit, par exemple, le débat de société qu'on a sur la 5G. Ben, nous, on est en amont, au début du démarrage de ces réflexions, pour pouvoir dire, ben voilà, à quoi ça doit servir? De quoi on a besoin demain pour la 5G? Et puis, peut-être demain pour la 6G, puisque c'est aussi un sujet qu'on va commencer à regarder.
Alors, la 5G, ça fait des mois qu'on en parle. Ça y est, c'est une réalité. Alors, je le disais, pas pour tout le monde, pour quelques abonnés, parce qu'évidemment, il faut remplir plusieurs conditions. Donc, depuis jeudi, vous avez appuyé sur le bouton 5G et vous avez activé une quinzaine de communes françaises, Nice, Marseille, Le Mans, Angers, Clermont-Ferrand, etc. C'est la première étape, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà un premier retour? Vous avez des abonnés qui surfent en 5G chez Orange, ça y est?
Ça y est, c'est parti. On a les premiers abonnés qui peuvent surfer en 5G. Alors, c'est le début, puisqu'effectivement, pour l'instant, on a une quinzaine de villes qui ont été ouvertes. Et puis, il faut aussi avoir un abonnement 5G et un terminal 5G. Donc, on est encore sur des volumes qui sont limités. Mais ça va aller très vite et on est d'ailleurs assez convaincu que le déploiement Et le développement de la 5G pour les utilisateurs va probablement aller plus vite que ce qu'on a connu sur les générations précédentes.
Parce que finalement, si on regarde un petit peu en arrière, la 4G a été lancée en 2012-13. C'est ça, hein?
Oui, 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 2011, 2012.
Ouais, oui, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Il a fallu quoi? Quasi 10 ans, finalement, pour avoir 99% de la population couverte. Enfin, pas 10 ans, mais on va dire 8 ans. À votre avis, on ne mettra pas 8 ans pour avoir 99% de la population couverte en 5G?
Non, non, non. Alors, un cycle technologique sur le mobile, c'est à peu près une dizaine d'années. Donc, voilà, on y est. Là, maintenant, la 4G a rendu tous ses services. On arrive à la 5G. Et la couverture, le déploiement... Notre sentiment, c'est que ça va s'accélérer. On s'attend à une couverture massive en 2 à 3 ans, avec une année 2021 qui sera plutôt sur les villes, les agglomérations, et puis 2022-2023, une couverture qui va se généraliser.
Alors attendez, ça c'est intéressant. Pour vous, en 2023, Orange aura quelle couverture de la 5G ?
Oh, probablement plus de 80%, mais je ne veux pas donner de chiffres trop précis, parce qu'on est dans un domaine concurrentiel, évidemment, et donc il faut laisser un petit peu de place... À cette concurrence, mais ça va aller probablement beaucoup plus vite que ce qu'on a connu sur la 4G.
Tiens, puisqu'on parle de concurrence, on met les pieds dans le plat, tout le monde lance sa 5G sauf Free. On a l'impression que tout le monde attend Free Mobile sur la 5G en matière tarifaire. On voit que Bouygues Télécom a lancé son forfait BNU. Alors BNU, c'est quand même, on va dire, les forfaits low cost qui étaient pour l'instant préservés par la 5G. Bouygues donc lance son forfait BNU. Vous attendez Free Mobile aussi sur la 5G?
On attend personne.
Je parle des offres commerciales, parce que vous n'attendez pas techniquement Free Mobile sur la 5G, mais au niveau des offres commerciales.
Non, je crois que... Orange a toujours montré son leadership technologique, a toujours montré son leadership sur les réseaux. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on est numéro un en matière de qualité de service pour la 9e année consécutive. Et évidemment, la 5G, elle rentre complètement dans cet ADN que nous avons d'apporter le meilleur réseau, la meilleure connectivité. Après, on est dans un pays où il y a de la concurrence, c'est très bien pour le client. Donc chacun arrive avec ses offres, chacun arrive avec ses prix, puis chacun arrive aussi avec sa qualité de connectivité, avec son réseau. Et c'est sur ce point que nous, on veut se différencier avec la meilleure 5G, une vraie 5G qui apporte toutes les promesses avec plus de débit, plus de fluidité et puis demain des usages pour les entreprises.
Alors, on va parler de cette vraie 5G, fausse 5G, etc., qualité des débits et du réseau. Donc, BNU lance en fait une option à 3 euros. Donc, Bouygues hein, lance une option à 3 euros pour avoir la 5G. Est-ce que la 5G va arriver sur les abonnés Sosh? Michael Trabien, on a eu beaucoup de questions sur ce sujet.
Alors bon, évidemment, la 5G a la vocation de se retrouver chez tous les utilisateurs à un moment donné. Maintenant, il y a un calendrier pour ça, il y a une stratégie commerciale.
Mais c'est bizarre, de garder la 5G pour, on va dire, les abonnés qui paient plus cher Orange, alors que finalement Sosh, aujourd'hui, ça représente des millions et des millions d'abonnés. Ce sont des geeks, souvent, enfin, des gens qui consomment. Est-ce que c'est pas un peu bizarre, ça, de réserver la 5G aux abonnés Orange et pas aux abonnés Sosh?
On a toujours connu ça, hein, d'ailleurs, c'est pas nouveau, effectivement, de, à un moment donné, de donner un avantage aux clients Orange, aux abonnés Orange qui, finalement, attendent les meilleures technologies que nous pouvons proposer. Après, évidemment, tous les abonnés, y compris les abonnés Sosh, à un moment donné, pourront avoir accès à la 5G.
Mais à un moment donné, c'est quand? Ça sera dans quelques semaines, quelques mois, quelques années?
Alors, on va garder un petit peu de suspense pour l'instant, mais ça va arriver.
Et ça va arriver?
Ça va arriver.
Très bien. Alors, on le voit, une quinzaine de villes couvertes depuis quelques jours. Vous prévoyez 160 communes couvertes en 5G d'ici fin décembre?
Absolument.
Ça marche forcé, hein, on a l'impression, le déploiement de la 5G. C'est parti.
C'est parti, on va très vite, et dans un contexte d'ailleurs pas forcément facile en matière de déploiement, mais on est déterminé.
Lié au confinement, c'est ça? Ou à d'autres problèmes?
Lié au confinement, il peut y avoir aussi ici ou là des problématiques locales, mais le sujet principal, c'est de pouvoir effectivement déployer la 5G. Pourquoi? Parce qu'on a des besoins en matière de capacité. Je crois que c'est essentiel de le rappeler. Aujourd'hui, la croissance de trafic sur nos réseaux, c'est d'environ 40% par an. 40%, c'est absolument colossal. Et donc, on va avoir besoin, notamment dans les villes, notamment dans les zones les plus denses, d'ajouter de la capacité. Et donc, on doit absolument aller rapidement sur ces déploiements 5G, en particulier dans les villes.
C'est-à-dire que pour vous, ce n'est pas simplement développement commercial et technologique, c'est aussi pallier à une insuffisance qu'on aura bientôt en 4G dans certains endroits. C'est-à-dire que vous faites ça en urgence aussi parce que vous voyez que certains indicateurs de la 4G se dégradent aujourd'hui ?
Alors, on n'est pas dans l'urgence au jour ou au mois près. Et on a le temps et on estime que en 2021, les réseaux 4G peuvent tenir. Mais le déploiement, ça prend du temps. Voilà, déployer un site, ça se prépare, ça s'anticipe, on a besoin d'autorisation.
Vous ne voulez pas arriver dans cette zone d'inconfort ?
On ne veut prendre aucun risque, ne veut prendre aucun risque. Et on a vu d'ailleurs que dans la période actuelle, parfois les réseaux peuvent être tout d'un coup sollicités de manière beaucoup plus importante. Et donc on veut toujours garder une marge de précaution qui nous permet de garantir la meilleure expérience, la meilleure connectivité à nos clients. Et donc il est temps aujourd'hui, il est temps de déployer la 5G.
Vous vous êtes fait des frayeurs durant ce confinement, quand vous avez vu les, on va dire, les courbes de consommation data exploser. Il y a eu des moments où c'était un peu chaud.
Il y a eu de l'attention, il y a eu de la vigilance, il y a eu des actions de nos équipes pour s'assurer que les réseaux tiennent, évidemment, mais pas de frayeurs, parce que je crois qu'on a des équipes qui ont une grande expertise, qui ont pu agir, qui ont pu, quand c'était nécessaire, par exemple sur les interconnexions entre opérateurs, qui se sont avérées un point un peu plus faible, notamment sur les appels voix. C'était important d'augmenter les capacités d'interconnexion entre opérateurs.
C'est ça qui était amusant, c'est que en fait, pendant le confinement, plein de gens se sont appelés au téléphone.
Voilà,
le téléphone était en perte de vitesse. Ouais. C'est étonnant. Hein.
Oui, mais ça se voit d'une manière générale dans les crises, le réseau téléphonique, les appels voix redeviennent très importants.
Alors qu'il y a la visio aussi, qui passe par l'IP, donc qui ne sollicite pas le réseau voix. Voilà, petit à petit, peut-être que les usages sont en train de se transformer, mais ça prend du temps, surtout auprès de certaines populations, etc.
Oui, et puis la visio, c'est aussi pour des usages professionnels.
Oui. Ou alors familiaux, mais bien précis.
Dans des cas bien précis, mais c'est vrai qu'au moment où il y a quelque chose qui se passe, que ce soit un confinement, une crise sanitaire, une crise sécuritaire ou autre, eh bien, les gens appellent, on voit sur les réseaux, sur les courbes, effectivement, ces pics sur nos réseaux.
Alors, Michael Trabia, la 5G, donc, ça va désengorger le réseau 4G qui, dans certains endroits, commence à être un peu saturé, d'accord ? Ça, c'est la première bonne nouvelle. Mais ça ne sert pas qu'à ça, la 5G ?
Non, ça ne sert pas qu'à ça. Évidemment, ça permettra d'assurer la croissance du trafic dans la durée. Alors aujourd'hui, je veux rassurer tout le monde, nos réseaux tiennent le coup et tiennent la charge. On n'a pas d'endroit où on a des problèmes de saturation significatifs, mais on sait que ça va arriver si on ne le fait pas. Et la 5G, elle va apporter également de nouveaux usages. Pour les particuliers, c'est d'abord plus de débit, une expérience plus fluide. Et d'ailleurs, on l'a testé. On teste la 5G auprès de clients qui nous disent que la satisfaction, on mesure leur satisfaction, elle est doublée quand ils utilisent la 5G par rapport à la 4G. Donc cette fluidité, elle se ressent, c'est une expérience 5G qui est différente. Après, en termes d'usage, on va avoir des usages de type immersif pour le grand public, et donc notamment pour participer à des événements, des concerts, des événements sportifs. Eh bien, pouvoir avoir la 5G, ça permet d'avoir des caméras à 360, de vivre l'événement comme si on y était. Et puis la 5G, ce sera pour 2022-2023 des usages nouveaux pour les entreprises, et là, on est dans la rupture. Autant pour le grand public, on est sur une évolution avec plus de
fluidité. Oui, ça ira plus vite.
Voilà, qui sera bienvenue et nécessaire. Autant pour les entreprises, pour l'industrie, pour les villes intelligentes, pour des nouveaux usages en matière de gestion des réseaux de transport, de réseaux de distribution, de pouvoir optimiser les flux de circulation, optimiser la logistique, pouvoir reconfigurer une usine en temps réel parce que les robots sont connectés en 5G et plus en filaire. Eh bien là, on est vraiment dans la rupture. Et pour ça, on a besoin d'une nouvelle étape de la 5G qui va arriver en 2022-2023, qui est, la 5G pleine et entière, ce qu'on appelle la 5G standalone, et qui va nécessiter là une évolution non seulement des antennes, ce qu'on est en train de faire maintenant,
mais le cœur de réseau aussi, c'est ça.
Mais aussi du cœur de réseau. Et là, on va pouvoir avoir des fonctionnalités de network slicing qui vont nous permettre d'avoir de la connectivité à la demande et de pouvoir donner des garanties de qualité de service pour certains usages, par exemple de la téléchirurgie, de la télémédecine, ou pour des entreprises qui ont des communications critiques qu'elles doivent assurer, eh bien ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire en 5G, qu'on ne pouvait pas faire avec les technologies actuelles.
Finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la vraie 5G, c'est pas aujourd'hui. En fait, on a 5G affiché sur son téléphone, on a des débits qui sont meilleurs, etc. Mais la vraie, en fait, le vrai switch technologique chez vous, ce sera en 2023, c'est ça ?
Ce qu'il faut comprendre...
Le gros bouton, en fait, il est en 2023, c'est ça ?
Alors, la 5G, elle est lancée maintenant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les générations, et ce n'est pas la première fois, elles sont évolutives. C'est-à-dire que au moment où on a lancé la 4G, il n'y avait pas toutes les fonctionnalités de la 4G qui étaient déployées. Et donc, ça se fait progressivement. Et donc, chaque technologie a un cycle d'évolution. Et donc, la 5G de 2023 sera plus performante que la 5G d'aujourd'hui, à la fois pour ses usages entreprises, mais aussi, on va continuer à travailler sur les efficacités énergétiques, sur les efficacités en matière de débit. Et donc, tout ça va continuer à progresser dans le temps, sur les 10 années qui sont devant nous pour la 5G.
Finalement, la 5G d'aujourd'hui, et c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, c'est une méga super 4G. On est d'accord ?
C'est une 5G qui apporte une différence.
Et mais avec un cœur de réseau.
Et qui est sensible, mais qui n'est pas encore le plein potentiel de la 5G qui, lui, va se matérialiser progressivement.
Très bien, tout ça c'est très clair. Juste un mot sur le déploiement, on le disait que vous allez à marche forcée. Cela dit, bon, il y a eu le confinement qui a peut-être un peu ralenti finalement le déploiement. Hein. Je crois qu'au départ, c'était le lancement commercial de la 5G, c'était prévu pour l'été dernier. Donc on a eu quelques mois de retard. Mais il y a aussi, on va dire, des problèmes locaux, politiques. Hein. Certaines villes qui lancent des moratoires concernant la 5G. C'est le cas de Paris, par exemple, parce que bizarrement, vous lancez pas mal de villes, mais on ne parle pas de Paris. Alors où est-ce qu'on en est et quand est-ce qu'on aura de la 5G à Paris ? Michael Trabia.
Pour avoir de la 5G, il faut d'abord avoir les fréquences. Et donc c'est pour ça d'ailleurs, le décalage que vous évoquez, c'était l'attribution des fréquences, les fameuses enchères sur la 5G, où d'ailleurs Orange a obtenu 90 MHz, c'est l'enveloppe la plus importante, et ce qui va permettre aussi de continuer sur ce leadership technologique. Donc la première chose, c'est d'avoir des fréquences. Et là, il y a eu un petit décalage, ce qui explique effectivement que la 5G a plutôt été lancée en fin d'année. Et puis après, il faut déployer sur le terrain, concrètement, des nouveaux équipements. Et pour ça, on le sait, nous pouvons le faire. On a juste besoin de déclarer auprès de l'ANFR, d'avoir les autorisations pour le faire. Mais c'est vrai qu'on a vu apparaître dans certaines communes des réticences plus ou moins fortes à un moment donné. Et on ne souhaite pas passer en force. Voilà. Nous, on est dans une démarche de dialogue, pas dans une démarche de passage en force, même si, juridiquement, nous avons le droit de déployer cette 5G, nous voulons rester dans ce dialogue et donc on discute avec les communes qui ont exprimé des inquiétudes. Aucune d'ailleurs n'a dit jamais de 5G sur mon territoire. On est le plus souvent, et notamment sur Paris, puisque vous l'avez mentionné, sur une volonté d'avoir un débat citoyen, un dialogue. Et d'ailleurs, ce dialogue, il est en cours à Paris. Moi, j'ai bon espoir que rapidement, on puisse effectivement pouvoir lancer aussi la 5G à Paris.
Mais alors, vous dites, vous avez bon espoir, vous discutez, mais c'est quand ? Ça va être, c'est quoi ? C'est la fin de l'année ? Ça sera en 2021 ?
Alors,
à votre avis ?
C'est sans doute une...
Parce que c'est embêtant quand même, excusez-moi, mais qu'Orange ne puisse pas couvrir, et d'ailleurs tous les opérateurs, hein, parce que vous êtes tous dans ce cas-là, ne puisse pas couvrir la capitale de notre pays quand même.
Oui, moi je crois que ce sujet est en voie d'apaisement, parce que le dialogue s'installe, on le voit. D'ailleurs, on voit... Le discours a évolué aussi hein, par rapport à ce qu'on a pu entendre il y a quelques mois. Et je crois qu'il faut avoir ce temps de débat et de dialogue. On le fait, on n'est pas à un mois près non plus pour lancer la 5G dans telle ou telle ville. Ça va arriver, moi j'en suis convaincu, ça va arriver rapidement, mais il faut laisser le temps au débat.
D'ici quoi, à la fin de l'année, plutôt 2021, qu'est-ce que vous en pensez ?
On verra bien, moi je ne veux pas donner de date limite.
Et votre objectif chez Orange, c'est quoi ?
Le plus vite possible, voilà, clairement, le plus vite possible, parce que les clients l'attendent, les Français l'attendent, les Parisiens l'attendent, on a beaucoup de nos clients qui nous demandent la 5G, et c'est une majorité, effectivement, des Français qui attendent
parce
la 5G.
Parce que le paradoxe, c'est peut-être à Paris, où les réseaux 4G sont les plus saturés, finalement, parce qu'il y a des endroits, on le sait, hein, il y a des quartiers où il y a tellement de gens qui se connectent en 4G que c'est compliqué. Donc c'est peut-être là, justement, dans certains quartiers parisiens, où on a besoin de la 5G au plus vite.
Bien sûr, on a besoin de la 5G.
C'est ça le paradoxe.
À Paris, on a besoin de la 5G, notamment dans les zones les plus denses, et donc, évidemment, à Paris. Pour autant, nos réseaux à Paris sont extrêmement performants puisqu'on les a, on a suffisamment d'antennes, on a suffisamment de densification et de capacité pour pouvoir gérer ce trafic. Mais c'est vrai qu'on va avoir besoin rapidement de la 5G Et encore une fois, voilà, c'est pas un mois près non plus que ça se joue. Et moi, je suis très très confiant que la 5G va arriver rapidement à Paris.
Début 2021, ça devrait arriver ? Espérons-le.
On le souhaite tous.
D'accord. Il y a d'autres régions, hein. Il y a Grenoble notamment, il y a même la Corse qui attend des études, hein, d'après ce que j'ai compris, cette fameuse étude sur les effets de la 5G qui devrait sortir en mars ou avril prochain, c'est ça ?
Alors on a, en réalité c'est l'ANSES qui suit ça sur les effets sanitaires d'une manière générale, d'ailleurs de toutes les technologies ou des différents cas qu'on peut avoir. Sur le sujet, d'ailleurs, de l'impact sanitaire des ondes sur la santé, il y a un consensus extrêmement clair, extrêmement constant sur le fait qu'avec les valeurs que nous utilisons, avec les réseaux tels que nous les utilisons, il n'y a pas de risque sanitaire.
Mais visiblement, les élus ne la lisent pas, cette étude.
Bien,
non enfin...
Je crois qu'il y a des questions sociétales qui peuvent se poser. Et parfois, on mélange un peu tout. On mélange peut-être des interrogations sanitaires, des interrogations sur la consommation énergétique, des interrogations sur le sens du progrès, finalement.
Oui, puis la 5G est un beau bouc émissaire dans ce cas-là. Hein.
La 5G arrive à un moment où ces questions deviennent extrêmement prégnantes dans la société, et donc elles cristallisent un peu tous ces sujets. Moi, je crois que sur le sujet sanitaire, on peut être extrêmement rassurant, et l'ANSES produit régulièrement des mises à jour. Et donc, sur ce sujet, d'ailleurs, il n'y a pas que l'ANSES, hein, vous en doutez bien, la 5G, ce n'est pas que la France, elle est déjà déployée.
Oui, bien sûr, et des études, il doit y en avoir des dizaines dans le monde.
Dans des dizaines de pays. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 200 millions d'utilisateurs de la 5G dans le monde.
Il n'y a pas eu de problème sanitaire
particulier.
Et donc,
voilà, toutes les autorités sanitaires qui se sont prononcées sur ce sujet ont été très claires sur le fait qu'il n'y a pas plus de risques avec la 5G qu'avec les autres fréquences que nous utilisons.
Donc Grenoble ou Corse, il y aura de la 5G.
Il y aura de la 5G partout en France, bien entendu.
D'accord.
Bien entendu.
Est-ce que la 5G, Michael Trabia, va remplacer la fibre optique pour certains abonnés qui aujourd'hui auront du mal à avoir cette fameuse fibre jusqu'à chez eux ?
Alors, là où il y a de la fibre aura toujours la préférence.
La priorité.
La priorité, parce que c'est plus efficace en matière technologique. Et la 5G n'est pas faite pour remplacer la fibre. En revanche, aujourd'hui, on a des zones qui sont très mal couvertes par l'Internet haut débit, sur lesquelles on peut amener de manière ponctuelle des compléments aujourd'hui en 4G, demain potentiellement en 5G, pour amener de l'Internet à haut débit et à très haut débit avec la 5G. Donc ça, c'est possible. Mais je crois que la France a cette chance d'avoir un déploiement très fort de la fibre. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Et donc, la priorité pour nous en France, c'est la fibre.
La fibre, on dit 100% de la population couverte, c'est possible ou pas ? 100% des foyers. On a du mal à croire quand même que cette petite maison qui est perdue au fin fond de la colline, je ne sais pas où, pourra avoir la fibre un jour quand même.
Alors c'est 100% de foyers couverts avec du très haut débit, et donc ça, c'est possible.
C'est là où il y a une petite subtilité, le très haut débit, ce n'est pas que forcément la fibre.
Ça n'est pas que la fibre, mais c'est
mais
vrai.
Mais cette fibre, elle va couvrir combien de foyers et quel pourcentage à votre avis ?
Elle couvrira la très grande majorité des foyers, puisqu'on le voit aujourd'hui, nous avons les déploiements qui sont faits par les opérateurs sur leurs fonds propres. Et donc ça, c'est 60% de couverture que nous amenons. Puis au-delà, on a des déploiements qui sont engagés sous l'égide des collectivités locales. Et donc d'ailleurs, qui nous sollicitent, on est aussi partenaire dans ces fameux réseaux d'initiatives publiques. Et donc là, ça dépend, je dirais, de l'engagement des collectivités. Mais on va aller très loin sur la fibre. Ce sera vraiment l'écrasante majorité des foyers qui sera couvert avec de la fibre optique jusqu'à l'abonné. Donc on est au-delà de 80-90% des foyers.
Donc ça sera la connexion en second choix, la 5G, à votre avis, ou il y en aura d'autres de connexions de second choix si on ne peut pas amener la fibre chez un particulier ?
Alors il y a plusieurs technologies possibles. Effectivement, aujourd'hui d'ailleurs, encore une fois, on a de la 4G, hein, on a des solutions 4G. Il y a aussi des solutions satellites. Pour des cas vraiment...
C'est moins bon, hein. Enfin, il y a plus de latence.
Aujourd'hui, oui, mais il y a des nouvelles générations de satellites, d'ailleurs sur lesquelles Orange s'est positionné. Nous avons acheté des capacités en exclusivité sur les nouveaux satellites qui vont pouvoir amener du haut débit et du très haut débit. Donc ça permettra d'avoir une expérience différente. Et il faut avoir un mix technologique pour s'assurer que dans tous les cas, on peut apporter une solution à chacun. Parce que pour avoir de la de l'internet par la 5G, il faut déjà aussi qu'il y ait une bonne couverture 5G.
Oui, c'est sûr.
Ce ne sera pas le cas partout. Mmh. Et donc, on a besoin d'avoir une complémentarité de technologie pour que, finalement, à la fin, ce qui compte, c'est qu'on ait de l'internet très haut débit.
Mais il y aura de la 5G dans les campagnes aussi ?
Il y aura de la 5G dans les campagnes aussi. Et d'ailleurs, dans le cadre des licences qui nous ont été attribuées, nous avons l'obligation
De couvrir certaines zones.
De couvrir aussi les campagnes. Et 25% de nos déploiements, au moins, seront faits dans les zones rurales.
La révolution de la 5G, est-ce que ce n'est pas aussi de l'internet illimité en mobilité, Michael Trabia ? Pour la première fois, on a vu chez Orange un abonnement, certes cher, à 100 €, qui propose de l'illimité en termes de data. On n'avait jamais vu ça en 4G chez vous. C'est aussi ça la révolution de la 5G, c'est de pouvoir proposer l'illimité comme de la fibre avec cette technologie mobile. Ou vous avancez un petit peu sur des œufs là-dessus ?
Ce qui est certain, c'est qu'avec la 5G on a à la fois une technologie plus efficace et des nouvelles capacités en bande de fréquence. Et donc, ça multiplie de manière importante la capacité qu'on peut transporter sur nos réseaux et donc ce qu'on peut proposer à nos clients. Et ça, ça correspond à une vraie demande parce qu'on voit la croissance des usages et donc la 5G va nous permettre d'y répondre. Et effectivement, avec des offres illimitées. Maintenant, je crois qu'il faut aussi être vigilant sur la qualité de nos réseaux et c'est un point important pour nous. On peut voir dans certains pays, chez certains opérateurs qui finalement ne font pas assez attention sur ces sujets-là, des problèmes de saturation et c'est ce que
déjà nous... en 5G ou en
4G ? Non, d'une manière générale, on n'en est pas encore à la saturation sur la 5G, les usages sont en train de se développer, mais...
sur la 4G, vous avez été prudent puisque vous n'avez jamais fait d'illimité.
On a été prudent, voilà. mais c'est aussi pour ça d'ailleurs.
Mais ça arrive sur la 5G, c'est la question que je vous posais. Oui. Je veux dire, on est sur on franchit en fait une barrière technologique permet d'avoir d'illimité.
Il faut bien voir que les usages mobiles, on sait y répondre effectivement avec la 4G, avec la 5G. Et donc, on n'a pas de problème pour donner de l'internet mobile à tous les utilisateurs. Là où ça peut être problématique, c'est si on commence à utiliser la 4G ou la 5G demain massivement pour faire de l'internet fixe. Et là, on peut avoir des problèmes de qualité sur les réseaux.
D'accord.
Il faut avoir en tête quand même juste un chiffre, que notre consommation d'internet, c'est à peu près 10 fois plus importante sur le fixe, que ce soit avec le Wi-Fi ou en direct, que sur le mobile. Et donc, autant on est tout à fait capable d'apporter cet internet avec la 4G et la 5G de manière, on va dire, tout à fait... illimité ou en tout cas sans restriction d'usage. En revanche, c'est vrai que le conseil qu'on donne, c'est de dire pour tous les usages fixes, on doit rester sur la fibre, on doit rester sur le Wi-Fi à la maison.
On parle de... Alors, ça sera ma dernière question. Si vous pouvez essayer d'y répondre rapidement. On parle de fausses 5G, de vraies 5G, de bandes de fréquences. Hein, on parle de 700 mégas, de 2,1 gigas, de 3,5 et monter sur des ondes encore plus hautes, hein, des ondes dites millimétriques. Ça change quelque chose, en fait, concernant la 5G, ces bandes de fréquences ou pas ?
Oui, alors ce qui change, c'est pas tellement d'ailleurs les bandes de fréquences en elles-mêmes, mais la capacité et donc la quantité de spectre qu'on va pouvoir utiliser. Il faut bien voir qu'on a aujourd'hui, on vient de nous attribuer des fréquences dans la bande 3,5 GHz, et donc là, on a de la place. Orange, je le disais, à 90 MHz dans cette bande, et donc on va pouvoir amener des débits importants.
Avec du giga, on peut arriver à du gigabit, etc.
Et là, c'est vraiment l'expérience 5G, la promesse 5G qu'on a faite. Il y a une autre possibilité pour déployer la 5G. Ça reste de la 5G. Donc, ce n'est pas de la fausse 5G au sens où elle utilise le protocole. La norme 5G, c'est la standardisation de la 5G, qui est d'utiliser les fréquences actuelles, les fréquences notamment à 2,1 GHz que nous avons, qui sont déjà utilisées pour faire de la 4G avec ce qu'on appelle du DSS, du Dynamic Spectrum Sharing. Donc, on va en gros partager la bande entre la 4G et la 5G. Le problème, c'est que cette bande, 1, elle est plus petite. 2, elle est déjà utilisée dans la 4G.
Donc vous risquez de sursaturer la 4G si vous prenez un bout de cette bande de fréquence pour émettre la 5G, c'est ça ?
Et donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est que ça peut... alors, il ne faut surtout pas le faire dans les zones denses et dans les zones saturées, parce qu'effectivement, ça peut dégrader l'expérience pour les clients 4G. Et puis, deuxièmement, ça n'apporte pas une qualité de services et un débit supérieur à ce qu'on peut connaître en 4G. Ça peut avoir du sens pour compléter une zone de couverture, par exemple. Quand vous êtes dans une agglomération, vous couvrez les zones les plus denses en 3.5 et puis vous avez un peu de DSS dans les jointures, dans les zones moins denses, parce que ça permet de rester et d'éviter la bascule 4G-5G. Donc, ça peut avoir du sens de manière localisée. Mais ce qui est certain, c'est que la vraie expérience 5G,
ça sera en 3,5
gigahertz.
Vous n'avez pas parlé de 700 MHz. Ça veut dire qu'en 700, c'est encore plus dégradé. C'est-à-dire que je vais avoir une longue portée de la 5G, mais avec des débits qui seront similaires à ceux de la 4G.
Alors, d'une manière générale, dans le mobile, effectivement, on a besoin de bandes basses pour amener de la couverture, pour amener de la pénétration dans les bâtiments. Et donc, le 700 MHz sert à ça. Mais c'est des bandes qui, à l'inverse, n'ont pas beaucoup de capacité parce que, voilà, plus on est dans les fréquences basses, moins il y a de place. Hein, et c'était le cas aussi pour la 4G. Et donc, on a besoin de ces technologies, mais on a aussi besoin, pour avoir vraiment du débit, là, c'est la bande 3.5, la bande cœur de la 5G. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la bande cœur. C'est parce que c'est avec la 3.5 qu'on aura le vrai bénéfice de la 5G.
Pour vous, la 5G en 700 MHz, ça ne sert à rien. À part pour des corrections de couverture.
Non, ça,
on n'y gagne rien par rapport à la 4G. Alors, si j'émets de la 5G en 700 mégas par rapport à la 4G, je gagne quelque chose ou pas?
Oui, on va gagner à terme puisque le standard sera plus efficace. Et donc
d'accord.
On va en avoir besoin. Et puis la 700 mégas, c'est aussi des fréquences en plus. Donc là, encore, on rajoute de la capacité et c'est important d'avoir cette capacité supplémentaire.
Voilà, sujet passionnant. Bien sûr, on en est qu'au début de l'histoire de 5G. Merci pour toutes ces explications très claires, Michael Trabien. J'étais ravi de vous recevoir. Vous êtes directeur de l'innovation et des technologies chez Orange. N'hésitez pas à réagir. Hein, le hashtag DQJMM sur Twitter, bien sûr, ou sur la page Facebook de quoi je me mail. Ce de quoi je me mail est terminé. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et merci de nous suivre, en tout cas. À très vite.
De quoi je me mail sur RMC et 01TV.